Bonjour. Les ministres de la Défense de l'OTAN viennent de se réunir pour évoquer des défis clés pour notre sécurité. Nous avons parlé de l'augmentation de notre aide pour l'Ukraine, le renforcement de notre dissuasion et de notre défense avec les forces, les capacités et les stocks qui sont nécessaires, et de la protection de nos infrastructures essentielles avec une présence accrue, plus de résilience et de partage du renseignement. Nous avons parlé de la guerre d'agression brutale menée par la Russie en Ukraine. Le président Poutine a réagi à ces échecs sur le champ de bataille par des tentatives d'annexion, par une mobilisation partielle, un discours nucléaire irresponsable et des attaques sans discrimination contre des civils et des infrastructures essentielles. Ensemble, tout cela représente l'escalade le plus grave depuis l'invasion de février. Nous saluons le vote d'hier à l'Assemblée générale des Nations unies, condamnant les tentatives russes d'annexion et exigeant le retrait de ces décisions illégales. Il s'agit là d'un message clair et fort. La Russie est isolée et le monde se tient aux côtés de l'Ukraine et pour défendre l'ordre international fondé sur les règles. L'OTAN ne participe pas directement au conflit, mais nous continuerons à soutenir l'Ukraine tant qu'il le faudra. Hier soir, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, nous a rejoints et a fait le point de la situation sur le champ de bataille. L'Ukraine progresse bien, repoussant les forces d'invasion russes à l'est comme au sud du pays. Les alliés de l'OTAN fournissent des systèmes sophistiqués, avec notamment de l'artillerie, la défense aérienne et des véhicules blindés. Et je me félicite de l'annonce faite aujourd'hui par l'Espagne de faire don de 4 lanceurs Hawk pour renforcer la défense aérienne ukrainienne. Voilà qui vient s'ajouter à ce que les autres alliés ont fourni ces derniers jours. Et je remercie l'ensemble des alliés pour leur contribution significative. Je les encourage à poursuivre dans cette voie. Nous fournissons également du carburant, des vêtements d'hiver et du matériel médical dans le cadre de l'ensemble complet de mesures d'assistance de l'OTAN. Dans ce cadre, l'OTAN livrera prochainement des systèmes anti-drones à l'Ukraine avec des centaines de brouilleurs capables de neutraliser les drones de fabrication russe et iranienne et de protéger la population ukrainienne et ses infrastructures critiques. À plus long terme, nous aiderons également l'Ukraine à assurer la transition des équipements de l'époque soviétique vers du matériel OTAN moderne. Ce matin, les alliés ont tenu une réunion régulière du groupe de planification nucléaire. Il était important de continuer à se consulter et se coordonner sur les questions nucléaires. Le discours nucléaire du président Poutine est dangereux et irresponsable. Nous prenons au sérieux ces menaces, tout en restant vigilants. Mais nous ne serons pas intimidés. Un recours aux armes nucléaires changerait fondamentalement la nature des conflits et aurait des conséquences graves. La Russie sait qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée. Les Alliés ont été informés également de l'exercice Steadfast Noon, prévu de longue date, mais qui commence la semaine prochaine. Il s'agit là d'un entraînement annuel de routine pour faire en sorte que les capacités nucléaires de l'OTAN restent sûres, sécurisées et efficaces. La dissuasion nucléaire de l'OTAN maintient la paix, empêche la coercition et dissuade l'agression. Les ministres ont également fait le point du travail de renforcement de la dissuasion de défense de l'OTAN. Nous sommes en train d'augmenter le nombre de nos forces à haute disponibilité opérationnelle. Nous avons plus de troupes dans la partie est de cette alliance, y compris 8 groupements tactiques de l'OTAN allant de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, pouvant passer très rapidement à la taille d'une brigade. Aujourd'hui, nous avons pris des décisions d'augmenter nos stocks de munitions et d'équipements et d'accélérer la mise à disposition des capacités et de s'appuyer sur le processus de planification défense de l'OTAN pour donner à l'industrie la demande à long terme dont ils ont besoin pour renforcer la production. Les agences de l'OTAN peuvent également soutenir les alliés pour faciliter les achats et organiser l'entreposage du matériel. Nous avons également parlé de ce qu'on peut faire de plus pour protéger nos infrastructures essentielles suite au sabotage des gazoducs Nord Stream. Nous avons renforcé notre vigilance dans les mers Baltiques et la mer du Nord et doublé notre présence navale. Les alliés renforcent la sécurité autour de leurs installations clés et nous renforçons également notre partage d'informations, notre surveillance dans l'ensemble des domaines, depuis l'espace jusqu'aux capacités sous-marines. Nous avons convenu également d'augmenter la résilience de nos infrastructures essentielles sous la mer et dans le domaine de l'énergie. Ça passe notamment par cybersécurité. Il faut savoir que des experts de haut niveau de l'ensemble des alliés vont se retrouver à l'OTAN cette fois-ci pour la première fois pour parler de ces questions de résilience. Lors de notre dernière session de ce jour, les alliés ont parlé des missions et des opérations de l'OTAN depuis les Balkans occidentaux jusqu'à l'Irak. Le haut représentant de l'Union européenne, M. Borrell, nous a rejoint. Et dans un monde de plus en plus imprévisible, il est plus important que jamais de renforcer, d'approfondir la coopération entre l'OTAN et l'UE. Et je me réjouis de pouvoir signer une nouvelle déclaration commune avec les présidents de l'UE dans un avenir proche. En Bosnie-Herzégovine, l'OTAN continue son soutien pour l'opération Althea menée par l'Union européenne. Et au Kosovo, la mission KFOR de l'OTAN maintient un environnement sûr et sécurisé conformément au mandat de l'ONU. Ces derniers mois, nous avons vu des montées de tensions à de multiples occasions. Toutes les parties doivent se comporter de manière responsable, faire preuve de retenue et éviter la violence. Le dialogue facilité par l'Union européenne entre Belgrade et Pristina représente la seule façon de procéder et la KFOR se tient prêt à intervenir si nécessaire. En Irak, l'OTAN reste engagée à notre mission d'entraînement pour aider les forces de sécurité à lutter contre le terrorisme. Et l'OTAN donc reste forte et vigilante, prête à faire face à toute menace, quelle que soit son origine. Et sur ça, je suis prête à répondre à vos questions.
Aideen White. Yeah.
Question. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Le président français a déclaré que la France n'était pas prête à avoir des représailles avec des armes nucléaires si la Russie lançait une frappe nucléaire contre l'Ukraine ou dans la région. Est-ce que pour l'OTAN, une réponse nucléaire serait envisagée face à une telle attaque ou est-ce que la France ne sape pas la dissuasion nucléaire en éliminant une telle réponse de sa part ? Réponse. La dissuasion nucléaire de l'OTAN a un objectif, maintenir la paix, éviter toute dégradation de sécurité et défendre et dissuader toute attaque contre les alliés de l'OTAN. Alors, la possibilité d'avoir recours à une arme nucléaire est très peu probable. La rhétorique russe est dangereuse, irresponsable. La Russie sait très bien que si elle a recours à des armes nucléaires contre l'Ukraine, les conséquences seraient très graves. La Russie est consciente du fait qu'une guerre nucléaire ne peut être remportée et qu'elle ne doit jamais avoir lieu. Question. Médias ukrainiens. Monsieur le secrétaire général, vous venez de dire que l'exercice qui aura lieu la semaine prochaine est un exercice de routine. Mais est-ce que vous pouvez imaginer un scénario qui tienne compte de la rhétorique russe actuelle, car la Russie menace de faire exploser des ponts en Ukraine avec des armes nucléaires, mais cela voudrait dire contaminer également les sols, les ressources hydriques, et est-ce que cela pourrait mener à un déclenchement de l'article 5 ? Réponse. L'exercice Steadfast Noon est un exercice prévu de longue date. C'est un exercice annuel qui a été prévu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous sommes ici très transparents. L'objectif de cet exercice est s'assurer que notre dissuasion nucléaire soit sûre, sécurisée et efficace. C'est pour éviter la coercition, pour éviter toute attaque contre un allié de l'OTAN. Cela vise également à préserver la paix. Nous savons que notre dissuasion nucléaire, c'est la dissuasion ultime. La dissuasion, c'est une façon de prévenir toute attaque contre un allié de l'OTAN et de garantir la paix. Et nous avons pu démontrer que cette dissuasion de l'OTAN est efficace et qu'elle fonctionne, elle le fait depuis des décennies. En fait, vous me posez deux questions différentes. D'abord, il y a une attaque à l'encontre des alliés de l'OTAN, et dans ce cas-là, évidemment, qu'il y aurait déclenchement de l'article 5. Mais, pour ce qui est de l'Ukraine, l'OTAN n'est pas partie au conflit, mais nous soutenons l'Ukraine dans la défense de son territoire. L'Ukraine est un partenaire étroit. L'OTAN soutient l'Ukraine depuis longtemps. Les alliés ont formé et entraîné les forces d'Ukraine depuis 2014. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les alliés en font plus. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, nous avons fourni des systèmes sophistiqués pour aider l'Ukraine à se protéger contre la brutalité des forces militaires russes. Question. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Monsieur le secrétaire général, ces derniers jours, vous avez répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune indication du fait que la Russie était prête à lancer une attaque nucléaire. Mais l'exercice nucléaire russe va avoir lieu bientôt également. Et dans ce contexte particulier, comment être en mesure de faire la différence entre des préparations liées à l'exercice et des préparations liées à une attaque nucléaire réelle. Réponse. Les alliés de l'OTAN et l'OTAN ont de très bons renseignements et donc nous suivons de très près ce que font les forces nucléaires russes depuis des décennies et nous allons continuer à le faire. Nous restons vigilants. Et donc, ce, dans le cadre de cet exercice qui va bientôt commencer. Ce que je puis vous dire, c'est que l'exercice russe est également un exercice annuel. C'est un exercice durant lequel ils mettent à l'épreuve leurs forces nucléaires. Nous le suivrons de près, comme toujours. Nous resterons vigilants, tout particulièrement dans le contexte de ces menaces et rhétoriques nucléaires de la part de la Russie. L'objectif de la dissuasion nucléaire, c'est d'empêcher la guerre, d'empêcher l'utilisation d'armes nucléaires. Et donc, nous communiquons cela clairement, notamment à la Russie.
Reuters. Reuters. Sabine Zibol pour Reuters. Monsieur le secrétaire général, hier, un représentant de l'OTAN a qu'au cas où la Russie lancerait une attaque nucléaire contre l'Ukraine, les alliés de l'OTAN ou l'OTAN elle-même allaient certainement réagir physiquement. Qu'est-ce qu'on entend par là concrètement? Réponse. Ceci aurait des conséquences graves si jamais la Russie avait recours à un type d'arme nucléaire contre l'Ukraine. La Russie en est consciente. L'OTAN et ses alliés l'ont communiqué par différents moyens à la Russie et on ne va pas préciser exactement quelle serait notre réponse, mais ceci viendrait modifier de manière fondamentale la nature du conflit. Cela voudrait dire qu'une ligne importante ait été franchie. Tout recours, même à une petite arme nucléaire, serait quelque chose qui changerait la donne totalement. Et ceci aura des conséquences. La Russie en est consciente. Merci pour McLean, Politico. La Russie s'est attaquée aux objectifs civils depuis le début de la guerre. Est-ce qu'ils sont délibérés? Est-ce que cela constitue des crimes de guerre? Réponse. Depuis le début de la guerre, nous avons constaté des attaques dirigées contre des civils, des attaques horrifiques contre des infrastructures civiles, des hôpitaux, des zones résidentielles et un grand nombre de victimes parmi la population civile. Et bien entendu, toute attaque délibérée contre les civils constitue un crime de guerre. Voilà pour lequel il est tellement important de soutenir les enquêtes qui sont en cours. Les alliés de l'OTAN fournissent un soutien en la matière à l'Ukraine permettant de collecter les preuves et de mettre à disposition toute la documentation nécessaire. Et c'est important pour faire en sorte que les responsables de ces actes rendent des comptes pour les crimes de guerre commis en Ukraine.
Dan Michaels, Wall Street Journal.
Dan Michaels, du Wall Street Journal. L'hiver va rendre les combats difficiles de part et d'autre. Est-ce que l'Ukraine a suffisamment de soutien et notamment d'équipement de la part des pays membres de l'OTAN et du groupe de contact pour poursuivre son offensive au cours de l'hiver ? Réponse. C'est le message principal suite à nos réunions ici à Bruxelles hier et aujourd'hui, aussi bien les réunions ministérielles de l'OTAN et du groupe de contact pour l'Ukraine. Il s'agit de mobiliser notre soutien pour l'Ukraine également en vue de l'hiver. Donc on met l'accent sur des vêtements pour l'hiver, de l'équipement qui permette d'opérer dans des conditions hivernales, des tentes par exemple, tout ce qui est nécessaire pour que les forces ukrainiennes puissent opérer en hiver également. Et ce sera au commandant ukrainien de vous expliquer comment ils ont l'intention de le faire. Mais nous sommes là pour les aider à avoir des opérations tout au long de l'hiver également et leur fournir aussi bien du carburant que des vêtements d'hiver, des tentes et des systèmes d'armes sophistiqués, défense anti-aérienne, véhicules blindés et de l'artillerie. Question, médias ukrainiens. Bonjour. Qu'est-ce que l'OTAN va faire pour aider à protéger les infrastructures civiles ukrainiennes ? Réponse. Alors, l'OTAN va en fait simplement accélérer ce qu'elle fait déjà depuis des mois, ce que les alliés font des mois, fournir de l'équipement à l'Ukraine et cela a permis d'ailleurs les avancées ukrainiennes récentes face aux forces d'invasion russes. Et les victimes que nous avons pu voir à Kharkiv, Kherson, et toutes ces avancées dans ces régions, dans ces villes, c'est grâce au courage des soldats ukrainiens. Mais c'est le soutien allié qui permet de faciliter ces combats. Nous allons continuer à fournir des systèmes d'armes pour les aider à protéger non seulement les infrastructures critiques, mais également les civils. Évidemment, les commandants ukrainiens savent au mieux comment utiliser les systèmes antiaériens que nous mettons à leur disposition. Mais n'oubliez pas que ces derniers jours, nous avons fait des annonces de livraison de pays comme les États-Unis, l'Allemagne, qui a déjà d'ailleurs livré un système antiaérien très sophistiqué. L'Espagne a annoncé la livraison de lanceurs Hawk dans le cadre de la défense antiaérienne. Et la France a également annoncé plus de défense antiaérienne pour l'Ukraine, ainsi que d'autres pays également. Donc on voit bien ces derniers jours que quand on demande aux alliés de l'OTAN d'en faire plus, ils répondent à cet appel. Et d'ailleurs, nous en avons bien parlé hier avec le ministre de la Défense ukrainien, Resnikov. Ils nous demandent d'en faire plus. Moi aussi, je demande aux alliés d'en faire plus. Et les alliés vont trouver dans leur stock ce qui permet de fournir plus de soutien à l'Ukraine. Mais évidemment, comme nous utilisons les stocks existants de l'OTAN, il faut absolument accélérer la production également. Et c'était une des raisons de nos réunions aujourd'hui également, s'assurer que nos industries produisent plus en utilisant déjà des capacités productives existantes. Donc travailler plus, des heures plus longues, travailler le week-end. Mais il faut également investir plus, il faut élargir la capacité de production. Nous sommes prêts sur le long terme, nous devons être prêts sur le long terme pour également reconstituer nos stocks et permettre un soutien à l'Ukraine.
Thank you. Merci, TV Kosovo. Pourriez-vous nous parler un peu plus de ce que vous avez dit sur les Balkans occidentaux? Je pense notamment à la coopération avec l'Union européenne. Alors tout d'abord, les Balkans occidentaux sont une région européenne où l'UE et l'OTAN travaillent très étroitement ensemble. Bien entendu, c'est le cas en Bosnie-Herzégovine où l'OTAN soutient l'opération Althea menée par l'UE et nous faisons tout notre possible pour assurer le prolongement de du mandat pour cette opération. Et le QG de l'OTAN à Sarajevo travaille avec les services de l'UE et l'opération Althea en Bosnie-Herzégovine. L'OTAN a une longue histoire de présence dans cette région. On a mis fin à des guerres brutales, d'abord en Bosnie et ensuite au Kosovo. Nous avons notre présence, la mission au Kosovo, la mission KFOR, et nous allons continuer donc à fournir des forces. Plusieurs pays ont fait des annonces dans ce sens. Et nous avons également constaté une montée des tensions au Kosovo, liée notamment à la question des plaques d'immatriculation. Mais là encore, on voit comment les troupes de l'OTAN, les troupes KFOR, viennent étayer, viennent soutenir ce que fait l'Union européenne, pour, notamment dans le cadre du dialogue entre Pristina et Belgrade. Et nous avons de nombreux membres de cette partie du monde. Récemment, on a accueilli deux nouveaux membres à l'OTAN provenant de cette région, le Monténégro et la Macédoine du Nord, ce qui montre que la porte de l'OTAN reste ouverte. Monika Kacuba, de la Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas de consensus politique interne en Bosnie de rejoindre l'OTAN. Ça, c'est un véritable problème. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce qu'on est proche de devenir membre? La réponse. La Bosnie-Herzégovine est un des pays qui avance sur le chemin de l'adhésion à l'OTAN. Et bien entendu, nous allons continuer à soutenir les efforts de ce pays pour se rapprocher de l'OTAN. Et ensuite, au final, bien entendu, c'est à la Bosnie-Herzégovine de prendre la décision sur son adhésion ou non à l'OTAN. C'est le cas d'un pays candidat comme la Bosnie-Herzégovine et les 30 pays membres, bientôt 32 avec l'adhésion de la Finlande et la Suède. Mais la Bosnie-Herzégovine doit vouloir devenir membre et l'OTAN va toujours respecter la décision d'un pays candidat. Si un pays souhaite rester neutre, on respecte à 100% cette décision. S'il souhaite devenir membre, eh bien, on peut voir ce qu'on peut faire pour avancer sur le chemin de la décision.
Dernière question, télévision polonaise. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de provocation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie? Et s'il y avait de telles provocations, quelle pourrait être la réaction? Merci. Réponse. Lorsque l'invasion a eu lieu en février, l'OTAN était prête. Nous étions prêts parce que nous avions le renseignement qui nous indiquait qu'une invasion était en train de se préparer et que donc quelque chose allait se passer. Nous avons d'ailleurs partagé ce renseignement avec le grand public. Et donc lorsque l'invasion a eu lieu, nous étions prêts. Ça veut dire que le matin même, nous avons pu activer nos plans de défense et renforcer notre présence dans la partie orientale de notre territoire. Nous nous préparons à cette situation, en fait, depuis 2014. Depuis 2014, nous avons mis en œuvre un renforcement de notre défense collective, jamais vu depuis la fin de la guerre froide. Et donc, nous avons déployé des troupes dans la partie orientale du territoire, y compris en Pologne, avec des forces aériennes. Et nous avons également forces qui sont prêtes à être déployées si nécessaire. Et à Madrid, nous avons donc décidé de renforcer encore plus la défense collective de l'OTAN. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Cette présence militaire accrue est là justement pour éviter tout malentendu et toute erreur de calcul de la part d'un adversaire. L'OTAN est prête à défendre chaque centimètre de son territoire. Et nous répétons ce message encore et encore pour qu'il n'y ait aucun malentendu et qu'il n'y ait aucune erreur de calcul. S'il n'y a aucun malentendu, aucune erreur de calcul, alors on ne va pas nous attaquer car nous sommes l'alliance la plus forte de toute l'histoire. Alors il y a toujours des risques d'attaques hybrides et de cyberattaques, mais une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN, alors que cela fait 70 ans que nous protégeons notre territoire parce que nous sommes unis, parce qu'au quotidien, nous avons été en mesure de communiquer clairement un message de dissuasion, à savoir qu'avec nous, c'est vraiment un pour tous, tous pour un, et que cette clause de défense collective reste inébranlable. Merci beaucoup. C'est terminé.